RTL Midi.
Agnès Bonfillon, Vincent Parisot.
Dans la mesure où il s'agit de frappes ciblées sur des installations militaires, on n'est absolument pas dans la même configuration que lors de l'attaque que Téhéran a lancée il y a quelques jours, où là, Téhéran avait lancé des centaines de drones et de missiles qui visaient le territoire israélien avec le risque, bien sûr, de pertes civiles qui n'ont pas eu lieu.
Commentaire du général Jérôme Pellistrandi, c'était sur RTL ce matin, après la riposte israélienne en Iran la nuit dernière. Une question sur toutes les lèvres. Et maintenant, doit-on craindre une escalade?
Pour en parler avec nous, nous sommes avec Héloïse Fayet. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'Institut français des relations internationales, spécialiste de la prolifération nucléaire. D'abord, pourquoi avoir ciblé Ispahan? Il y avait un objectif précis de la part d'Israël?
Alors, on ne sait pas s'il y avait un objectif précis, mais a priori, ils ont choisi une cible qui était facile d'atteindre, peut-être depuis l'intérieur du territoire iranien. Et puis, il y a une dimension évidemment symbolique, étant donné qu'ils ont frappé, encore une fois, a priori, une base aérienne abritant donc des chasseurs iraniens. Et puis, pas très loin, il y a effectivement des installations qui participent au programme nucléaire iranien, même si ce n'est pas ça qui a été ciblé.
Mmh. Donc il y a un aspect symbolique de cette frappe. C'est d'autant plus inquiétant qu'on ne sait pas vraiment quelles sont réellement aujourd'hui les capacités de Téhéran en matière nucléaire.
Alors, on a une assez bonne idée des capacités nucléaires iraniennes. Alors, selon ça, déjà, c'est que l'Iran n'a pas d'armes nucléaires et surtout qu'il n'a pas la capacité d'en fabriquer une en quelques mois. Il lui faudrait quelques années et surtout, c'est un processus que l'on serait capable d'observer. Et par exemple, les renseignements américains, les services de renseignement, publient régulièrement des rapports affirmant qu'il n'y a pas de signe de militarisation du programme nucléaire iranien, qui n'est certes pas compatible avec un programme nucléaire strictement civil, mais il n'y a pas de signe montrant que l'Iran cherche à développer une arme nucléaire.
Mmh. Alors, pas encore d'armes nucléaires, mais ce n'est pas impossible à l'avenir. Est-ce que les Occidentaux tentent toujours de négocier avec l'Iran sur le sujet?
Alors, je pense déjà qu'on peut rappeler que la seule puissance nucléaire dans la région, c'est Israël. On n'en parle pas souvent, mais il y a quand même évidemment cette dimension qui entre en jeu. Et puis oui, il y a toujours évidemment des tentatives européennes et américaines de négocier sur le nucléaire iranien afin d'essayer de freiner ce programme d'enrichissement. Mais évidemment, c'est très compliqué, étant donné que l'Iran soutient la Russie dans l'effort de guerre en Ukraine. Donc du coup, c'est difficile d'avoir des négociations ouvertes avec l'Iran. Et puis surtout, depuis ce qui se passe en octobre 2023, où l'on sait que l'Iran finance le Hamas et donc contribue aux attaques contre Israël, là aussi, ça devient encore plus compliqué de négocier, même si à nouveau, les coûts en fait, de développement d'une arme nucléaire pour l'Iran seraient largement supérieurs aux bénéfices qu'il pourrait en retirer.
Mmh. Cette réplique israélienne, elle a été jugée, je redis exactement le terme employé, faiblarde par un faucon israélien, point de vue partagé, donc une réplique jugée peut-être insuffisante. Certains auraient voulu qu'on aille frapper plus spécifiquement, j'allais dire, les secteurs où les Iraniens préparent l'armement nucléaire.
Alors, à nouveau, les Iraniens ne préparent pas l'armement nucléaire. Mais alors déjà, il faut se réjouir évidemment que Itamar Ben-Gvir n'est pas à la tête du gouvernement israélien. Et en fait, on voit bien que les problématiques internes à Israël, avec un cabinet de guerre qui est très morcelé, avec une extrême droite qui est beaucoup plus présente qu'auparavant, effectivement, doivent être satisfaits en même temps que les impératifs géopolitiques régionaux, que l'entretien du lien entre les États-Unis et Israël, et donc que Netanyahou a dû faire la part des choses entre les deux et a choisi finalement une réplique calibrée, symbolique, mais dans un sens, comme l'était déjà partiellement les frappes iraniennes du 13 avril, qui, rappelons-le, dans le narratif iranien, étaient déjà une réplique à l'attaque israélienne sur le consulat d'Hamas.
Et sans parler de nucléaire, Héloïse Fayet, est-ce que la République islamique d'Iran a aujourd'hui les moyens d'aller plus loin, d'assumer un engrenage, une escalade, ne serait-ce qu'avec son arsenal balistique?
Encore une fois, là, d'un point de vue iranien, en fait, ce sont les Israéliens qui sont dans l'escalade. Étant donné que les Iraniens avaient très bien vu, après l'attaque du 13 avril, que de leur côté, l'incident était clos, Joe Biden avait appelé Israël à prendre ses responsabilités et à take the win, donc typiquement à considérer qu'il s'agissait déjà d'une victoire, d'avoir pu intercepter la totalité du drone, des missiles de croisière, des missiles balistiques. Là, on n'a pas d'informations précises sur l'état du stock iranien, mais à nouveau, les Iraniens ont bien signalé qu'ils n'allaient probablement pas répondre par une frappe d'envergure à ce qui s'est passé cette nuit.
Ça veut dire qu'on ne va pas en rester là?
C'est impossible à dire, parce qu'évidemment, les acteurs ont leurs intérêts propres, ont des dynamiques escalatoires qui peuvent nous échapper, donc il faut évidemment maintenir une extrême prudence, mais appeler absolument à la désescalade des deux côtés. Mais de toute façon, voilà, la couverture, le couvercle en fait d'une frappe directe israélienne contre l'Iran et d'une frappe iranienne contre Israël, les deux ont été ouverts. Ouais. Donc à ce stade, en fait, on n'est jamais à l'abri évidemment d'une escalade, même si mais a priori,
pas ce
qui est souhaité par tous les acteurs.
Merci beaucoup, Héloïse Fayet, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'Institut français des relations internationales, spécialiste de la prolifération nucléaire. Dans un instant, Vincent, une fois n'est pas coutume, mais on va faire le LVT midi.
Oh bah avec plaisir.
Dès midi 20.
Mais on est souple.
On va parler Martine à la plage, Martine en radio, Martine à de l'avance. Voilà.
Toute la collection.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Agnès Bonfillon, Vincent Parisot.